VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Midi à Kinshasa, bonjour à tous. La police sud-africaine a annoncé aujourd'hui avoir arrêté 3 personnes liées à un cambriolage suspect qui a visé la semaine dernière le bureau du président de la Cour constitutionnelle à l'origine d'une vive controverse politique. Les 3 suspects ont été interpellés à Mamelodi, un township de la banlieue de la capitale Pretoria. A précisé devant la presse le grand patron de la police, le général Kodmotso Falane. Il devait être présenté aujourd'hui devant un juge. Ce vol est intervenu 2 jours après un arrêt très critique envers le gouvernement rendu par la Cour constitutionnelle. Dans ce jugement, la plus haute instance judiciaire du pays étriait le gouvernement pour son incompétence dans une crise qui menaçait de remettre en cause le paiement des allocations sociales de 17 millions de personnes. En RDC, la situation sécuritaire au Kasaï inquiète après la diffusion de vidéos choquantes sur des massacres présumés par l'armée congolaise ou la découverte de fosses communes. Des arrestations ont eu lieu. 2 enquêteurs de l'ONU ont aussi disparu dans la région où le groupe Kamwina Nsapu sévit. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, fait le point de la situation dans le centre de la RDC.
Si un groupe qui tue 30 policiers n'est pas une préoccupation pour un gouvernement, je ne sais pas ce que ce serait. Même ici aux États-Unis, quelqu'un qui tue 30 policiers, c'est un danger majeur. Je pense que beaucoup de policiers sont morts, 4 agents de la CNI ont été tués, d'autres policiers ont été décapités dans la province du Kasaï oriental et dans la province du Sankuru, qui est la mienne. Donc il ne faut pas politiser des phénomènes criminels comme cela. C'est très dangereux de vouloir donner l'impression que le terrorisme n'est pas un mal, parce qu'on n'est pas au pouvoir et que l'on veut jouer du fait qu'on est dans une association proche de l'opposition pour un peu discréditer les thèses du gouvernement. Nous avons affaire à un phénomène criminel de grande ampleur et nous devons le traiter comme tel. Si la réponse n'est pas proportionnelle à la menace, il faut nous le prouver, parce que nous avons enterré des dizaines de policiers. Je ne sais pas si ce n'est pas une menace sérieuse que quelqu'un puisse tuer 30 policiers, ne pas le prendre au sérieux, c'est vraiment faire preuve d'irresponsabilité.
Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement de la RDC. La Cour pénale internationale doit prononcer aujourd'hui sa première peine de prison pour subornation de témoins contre l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, reconnu coupable d'avoir tenté d'obtenir par ce biais un acquittement dans son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Déjà condamné à 18 ans de prison au terme de son premier procès, Jean-Pierre Bemba avait vu le procureur requérit 8 années d'emprisonnement supplémentaires à la fin de ce procès connexe, le premier de ce type à la Cour. Et toujours à la CPI, les juges de la Cour pénale pourraient attribuer vendredi les premières sommes affectées au dédommagement de victimes de crimes de guerre estimées à plus de 16,4 millions de dollars par les avocats des victimes d'une attaque sur un village congolais en 2003. La décision des juges concernant des réparations pour 304 victimes de l'ancien chef de milice congolais Germain Katanga serait une étape importante pour la CPI, unique tribunal permanent chargé de juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
La ville de Maïdigouri, dans le nord-est du Nigeria, a été aujourd'hui la cible d'une série d'explosions qui ont fait 4 morts et 18 blessés, selon la police. La ville de Maïdigouri est la plus touchée par l'insurrection lancée il y a 8 ans par les islamistes du groupe Boko Haram. 2 des 3 bombes ont explosé dans des camps hébergeant des populations déplacées par l'insurrection armée. Les Nations Unies ont approuvé un prêt d'urgence de 22 millions de dollars en vue d'éviter une nouvelle famine en Somalie. Un pays de nouveau frappé par une grave sécheresse a annoncé mardi l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Le nouveau président somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed a qualifié le mois dernier de catastrophe nationale la grave sécheresse qui ravage son pays. L'Organisation mondiale de la santé estime que plus de 6,2 millions de Somaliens, la moitié de la population, ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, dont près de 3 millions qui souffrent de la faim. La République d'Haïti a finalement un gouvernement, un mois et demi après l'entrée en fonction du président Jovenel Moïse. Un premier ministre a été investi hier mardi suite à sa ratification par les deux chambres du Parlement. Gabi Dorsil a suivi le processus.
Jacques-Guy Lafontan, médecin de profession, est un novice en politique réputé proche de Jovenel Moïse. À la surprise de plus d'un, il a réuni une majorité au Sénat avant de sortir victorieux tôt hier matin à la Chambre basse, après une séance marathon de plus de 19 heures. Le député Gary Baudot, questeur et leader du bloc majoritaire à la Chambre, explique pourquoi.
D'abord, il faut dire qu'il y a une majorité à la Chambre des députés. Vous savez qu'il y a 5 blocs au niveau de la Chambre basse. Il y a eu une rencontre historique au niveau du Palais national où les différents et dirigeants du bloc majoritaire ont eu à rencontrer le président de la République, le premier ministre et le cabinet ministériel. On a pu trouver un accord sur nos différents désaccords. C'est ce qui a permis, si vous voulez, ce vote. Il y a aussi le secteur privé haïtien, il y a aussi le secteur informel également. Donc tout ce beau monde et tous ces secteurs de la vie nationale également ont eu à rencontrer le bloc majoritaire pour discuter de la nécessité de confirmer le premier ministre. Donc il a fallu doter le pays de gouvernement et c'est ce qui a été fait.
103 députés sur 119 ont voté, 95 pour, 6 contre et 2 abstentions. Sinal Bertrand, de la mouvance Lavalas de l'ex-président Aristide, est l'un de ceux qui n'ont pas soutenu le docteur Lafontan.
J'étais membre de la commission chargée d'enquêter sur les pièces du premier ministre. On a enquêté sur les dossiers de passeport. Le premier ministre a passé 7 ans sans passeport. Il n'a pas présenté aucun passeport de 1990 à 1997. Et pourtant, il a étudié, il a fait des spécialités. Par exemple, il a été en France, à Montréal, il a été aussi en Martinique. Il n'a pas payé les taxes. Il devrait être sanctionné. Par exemple, il n'a pas payé patente contre médecin. Il n'a pas payé la déclaration définitive d'impôt à temps. Il n'a pas payé l'impôt locatif, etc. Eh bien, le Premier ministre n'est pas éligible.
Face à une situation économique très précaire, inflation de plus de 14% et chute vertigineuse de la gourde, la monnaie nationale, le nouveau Premier ministre prône une rigueur budgétaire. Il a pourtant multiplié les promesses aux parlementaires afin d'éviter un échec que d'aucuns croyaient possible il y a seulement 2 semaines.
Merci Gabi. Les États-Unis rassemblent aujourd'hui les 68 pays qui se battent contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Le président Donald Trump ayant promis de démolir les djihadistes malgré une coalition affaiblie par des désaccords stratégiques. Tatiana Mosso.
Il s'agira d'un baptême du feu pour Rex Tillerson. Le secrétaire d'État américain accueille des dizaines de ses homologues, dont les proches alliés européens et arabes, qui s'inquiètent d'un éventuel repli des États-Unis. Le nouveau président américain veut doper le budget de la défense de 10% contre une baisse de 28% des ressources de la diplomatie. Il avait demandé au Pentagone de lui fournir un plan détaillé pour démolir Daesh. Le Pentagone estime que le groupe État islamique a perdu 65% des territoires qu'il détenait en 2014. Cependant, la coalition est affaiblie par des désaccords sur la stratégie à suivre pour reconquérir Raqqa et Mossoul. En outre, la coalition doit répondre à la question du futur statut des territoires libérés en Syrie. Autonomie ou retour dans le giron du régime syrien, la question divise. Aussi, la France s'inquiète que l'administration Trump ne réduise les budgets de la diplomatie, de l'aide internationale et les contributions américaines à des programmes des Nations Unies. Ces inquiétudes sont renforcées par l'annonce que le chef de la diplomatie américaine sera absent de la prochaine réunion de l'OTAN début avril à Bruxelles.
Le président américain Donald Trump va bel et bien assister au prochain sommet de l'OTAN le 25 mai à Bruxelles, a confirmé mardi la Maison-Blanche, où il devrait à nouveau demander donc aux pays membres d'augmenter leurs dépenses militaires. La décision du chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson de ne pas se rendre à sa première réunion prévue avec les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN les 5 et 6 avril à Bruxelles a inquiété les Européens qui se sont à nouveau interrogés sur l'engagement des États-Unis dans l'Alliance Atlantique. Et puis, nommé par Donald Trump à la Cour suprême américaine, le juge conservateur Neil Gorsuch s'est employé mardi à convaincre les sénateurs qu'il était libre de toute influence politique sans livrer ses opinions personnelles. Au deuxième jour de son audition en vue de sa confirmation par le Sénat, le magistrat a même assuré qu'il n'aurait aucune réticence à juger le cas échéant le président Donald Trump. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Ce sera en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.